France Culture.
Bonjour le Book Club. Ce qui me touche dans Piste, c'est d'abord le passage entre une langue quotidienne et un langage poétique. Vous réussissez magistralement à tisser des liens entre votre histoire et la grande histoire. Tout ça avec une finesse, une sincérité et je dirais même une humilité que je trouve très émouvante.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Portrait d'une dramaturge aujourd'hui dans votre book club. Penda Diouf écrit pour le théâtre depuis plusieurs années. Dans ses pièces, se côtoient des mémoires souvent tues ou trouées, des gestes pour les raccommoder, du mouvement, on y marche, on y court, on voyage, et un élan vers le grand tout. Les étoiles, le bleu, les champignons, le vivant, quelque chose de céleste, jouxte toujours le politique dans ses écrits. On les parcourt ensemble à l'occasion de plusieurs actualités. Penda Diouf est notre invité. Vers 15h50, comme chaque jeudi, la rédaction internationale de Radio France nous emmène prendre des nouvelles du livre Hors de nos frontières. Et aujourd'hui, on file direction la Suisse, où un premier roman choisit d'évoquer les abattoirs. Et en fin d'émission, on joue avec vous à trouver de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Nous voilà ensemble pour une heure, c'est bien. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Penda Diouf.
Bonjour Marie.
Vos textes Piste, Suture, La Grande Ourse, Noir comme l'or sont publiés aux éditions Quartet et le texte Sœur, nos forêts aussi ont des épines vient de paraître aux éditions des Solitaires intempestifs. On pourra voir ce dernier texte dans une mise en scène de Sylvia Costa à la MC93 de Bobigny du 5 au 15 février prochain. C'est une maison que vous connaissez pour y avoir été en quelque sorte en résidence pendant quelques mois en 2020. Vous êtes aujourd'hui associé au Théâtre du Nord à Lille. Où vous avez signé pour la première fois, je vais réussir à tout dire dans une introduction, une mise en scène de votre texte Piste. Cette création est en tournée actuellement en France. Soyez la bienvenue dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir pour faire voilà, ce qu'on a appelé une sorte de portrait d'une autrice de théâtre, de dramaturgie, de textes qui sont destinés à la scène, mais qui sont, on l'a entendu, publiés et qu'on peut donc découvrir en les lisant. On va évoquer cette écriture théâtrale juste après un premier temps de ce portrait de vous en tant que lectrice. C'est quelque chose qui peut poindre dans vos textes, la rencontre avec la poésie, avec ce que c'est qu'un livre, une rencontre qui n'est pas toujours simple d'ailleurs, qui n'est pas toujours heureuse, mais qui est souvent liée à des formes d'épiphanie, de libération. Vous diriez que vous avez eu quoi comme vie de lectrice, si on essaye de la jalonner et qu'on la prend au tout début, le plus tôt possible?
Je crois qu'au tout début, c'est grâce à ma maman que je vais à la bibliothèque pour la première fois, donc bibliothèque municipale dans une petite ville à côté de Dijon qui s'appelle Quetigny. Et j'y allais après le cours de judo, le mercredi et le samedi. Et j'y ai passé énormément de temps. Et je crois que j'ai adoré ce lieu pour toutes les rencontres qu'on pouvait y faire avec les autres lecteurs, lectrices, mais bien évidemment avec tous les livres qu'on pouvait découvrir, qu'on pouvait lire sur place, qu'on pouvait emprunter à la maison. Ça, je trouvais ça incroyable aussi, de pouvoir emprunter des livres à la maison. Et c'est sûr qu'à chaque fois, j'empruntais un maximum de livres et que je les rendais très vite, quoi. Le samedi d'après ou le mercredi d'après, j'avais déjà tout fini et je les ramenais et je crois aussi qu'il y a eu beaucoup d'ennuis lorsque j'étais petite.
Hors de la bibliothèque ou à la bibliothèque?
En dehors de la bibliothèque, dans ma vie d'enfant. J'ai passé beaucoup de temps à m'ennuyer. J'ai un petit frère, mais on a 9 ans d'écart. Et pendant tout ce temps-là, j'ai cheminé en fait avec les livres. Et je crois que j'ai eu très tôt un rapport assez... j'ai envie de dire boulimique un peu à la littérature et aux livres, parce que je lisais de tout. Je prenais vraiment tout ce qui me tombait sous la main et je me souviens de la bibliothécaire, là je devais avoir 10 ou 11 ans, qui était très surprise de mes choix parce que je passais de La Comtesse de Ségur à un livre comme La mort est mon métier de Robert Merle, quoi. Donc des choses qui étaient à la fois très très différentes et... des choses à la fois très enfantines et d'autres beaucoup plus matures.
Des gens vous orientaient ou vous vous débrouillez toute seule dans
les rayons
de la bibliothèque ?
Non, je me débrouillais toute seule. Et ça me... Non, je papillonnais, quoi, vraiment. Je regardais les couvertures, je lisais le quatrième de couverture, et puis je me décidais, quoi. Mais non, ça a été un grand bonheur et surtout une source de liberté pour moi.
Voilà. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on sent souvent. Mais quand vous dites, c'est grâce à ma maman, on y allait le mercredi et le samedi après le judo, qu'est-ce qui faisait qu'elle pensait que c'était une bonne idée de vous emmener à la bibliothèque, Penda Diouf?
Je pense qu'elle aurait aimé plus lire, en fait, dans sa vie. C'est quelqu'un qui aime la littérature, mais qui ne s'est jamais, je pense, beaucoup octroyé le temps de lire. Mmh. Et le fait de m'inscrire à la médiathèque, à la bibliothèque, c'était peut-être une façon pour elle de renouer avec ça, avec cette frustration-là. Et pour ça, vraiment, je lui en suis vraiment reconnaissante.
Les bibliothèques, c'est un lieu qu'on va retrouver dans votre parcours parce que vous allez y travailler ensuite à l'âge adulte. Mais si on continue un petit peu, donc vous avez 9, 10, 11 ans, vous prenez comme ça, vous vagabondez beaucoup, vous lisez beaucoup. Vous devenez quoi comme jeune lectrice si on vous retrouve à l'adolescence? Est-ce que vous continuez à lire pendant l'adolescence? C'est parfois quelque chose qui s'arrête. Est-ce que vous devenez une autre lectrice en tant que jeune adulte? Comment ça se passe pour vous?
Je fréquente peut-être un petit peu moins les médiathèques, mais j'ai toujours cet appétit de lire. Et surtout, je commence à savoir un petit peu plus précisément ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Et je crois que je me tourne beaucoup à ce moment-là vers... parce que je cherche aussi qui je suis, quelle est ma place dans le monde, et j'ai du mal à appréhender tout ça théoriquement. Donc je cherche en fait à retrouver ces expériences que je peux vivre de façon pratique et quotidienne dans les livres, les romans que j'emprunte. Et je crois que mes premières orientations à l'époque sont plutôt des livres autour de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale.
Vous y cherchez quoi? En correspondance avec le vécu que vous décrivez?
Parce que je pense qu'à l'époque, je sentais que j'appartenais à une forme d'histoire qui me dépassait et que je n'avais pas les mots, en fait, ni les outils théoriques pour expliquer mon ressenti, le fait de ne pas me sentir à ma place, le fait peut-être aussi de me sentir exclue par moments. Et c'est vrai que la littérature liée à la Seconde Guerre mondiale m'a donné quelques outils, en fait. Lorsque je lisais Anne Frank, c'est sûr qu'il y a des moments où il y a des choses qui me parlaient certainement. Et c'est après, au fur et à mesure, que j'ai découvert d'autres choses. Alors, La case de l'oncle Tom d'Harriet Beecher Stowe, c'était un tout petit peu plus tôt, mais ensuite j'ai découvert un peu plus la littérature africaine. Et surtout beaucoup la littérature des États-Unis, notamment Toni Morrison qui a été...
À quel moment vous découvrez Toni Morrison et par quel texte?
Je crois que ça a été Beloved que j'ai découvert en premier et j'ai eu une vraie claque. Et c'est intéressant aussi parce que je me rends compte que dans ce livre, elle raconte donc l'histoire de cette femme qui est une sorte de Médée des temps modernes, qui tue ses enfants pour qu'ils ne soient pas esclavagisés. Et elle raconte qu'elle a un arbre qui lui pousse dans le dos. Donc arbre qui est lié bien évidemment aux blessures infligées pendant l'esclavage par le fouet. Et ce motif de l'arbre, c'est quelque chose qui est récurrent aussi dans mon écriture.
Tout comme le dialogue avec les absentes et les absents, il y a quelque chose aussi dans cette femme, dans Beloved de Toni Morrison, qui est tout à fait en capacité de reconnaître les fantômes, d'interagir avec eux. C'est une des dimensions sublimes de Toni Morrison et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans vos textes, Penda Diouf. Vous décrivez, on y viendra tout à l'heure dans Piste, en tout cas, on a l'impression que vous travaillez un matériel autobiographique de solitude, d'exclusion, de prise de conscience par l'exclusion, par la violence d'un racisme systémique en France. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous cherchez dans vos lectures? Est-ce que vous cherchez à lui donner corps? Est-ce que vous cherchez à comprendre ce qui vous arrive? Est-ce que vous posez des questions au texte, au livre, à la médiathèque, à la bibliothèque?
Oui, certainement. Je pense que si j'ai été une lectrice aussi assidue, aussi gourmande, c'est parce que j'avais plein de questions et que je ne trouvais pas de réponse dans mon quotidien ou qu'il était difficile d'interroger mes proches à ce sujet. Et j'ai cherché des réponses et j'en ai trouvé quelques-unes parfois dans des romans et des romans de femmes afrodescendantes. Je pense à Aminata Zaharia, par exemple, qui a écrit La nuit est tombée sur Dakar. Je pense aussi à Fatou Diome. je pense à Maria Maba, Une si longue lettre, voilà, toute une constellation de femmes aussi qui m'a accompagnée, voilà, dans ma vie de jeune adulte, et qui m'a permis aussi de comprendre davantage ce qui m'arrivait, et aussi les questions de rapport de domination, domination bien sûr de genre, mais également domination d'ordre géopolitique.
Et ça, ça arrive à quel moment dans votre parcours ?
Oh, j'ai entre 15 et 20 ans, à peu près, ouais.
Trop tard ou à temps ?
Non, ça arrivait au bon moment. Après, c'est sûr que j'ai découvert Audrey Lorde beaucoup plus tard, j'ai découvert May Haïm beaucoup plus tard, et je me dis, ah, si je les avais découvertes il y a 25 ans, j'aurais peut-être gagné du temps.
Oui, parce que vous parlez souvent, Penda Diouf, de l'absence de représentation et de ce que ça peut, comment dire, justement, représenter comme richesse, comme bénéfique de se trouver dans un texte, y compris quand c'est par un détour, y compris quand c'est par un détour géographique, historique, mais il y a quelque chose de puissant à pouvoir dialoguer dans cette intimité-là. Il y a autre chose d'assez saillant dans votre écriture, souvent à la fin, d'ailleurs, de vos pièces. C'est des envolées lyriques, très assumées, très poétiques, des choses qui sont dirigées. Moi, je les ai vues dans les deux sens, c'est-à-dire parfois vers un grand haut, grand tout, et parfois vers un grand sol, vraiment les abîmes, qu'elles soient sous la terre ou sous la mer. Et ça, il y a quelque chose, oui, qu'on peut rattacher à une tradition poétique. Est-ce que c'est des choses que vous lisiez ? Est-ce que vous vous êtes tournée vers la poésie à un moment donné ou pas du tout ?
Oui, j'ai beaucoup lu de poésie, notamment à l'adolescence, 14, 15, 16 ans. C'est d'ailleurs le moment où j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à écrire, en fait, de la poésie. Parce que je pense que il y avait certainement de l'incompréhension en moi, mais aussi beaucoup de colère. Et que cette colère-là trouvait une sorte de baume dans la poésie, dans les poètes que j'ai découverts à l'époque. Je pense aussi au roman Jeanne Eyre de Charlotte Brontë, qui m'a énormément accompagnée aussi à cette époque. Et j'ai l'impression que ces écritures, ces textes poétiques, ces romans m'ont permis d'une certaine façon de calmer cette colère et de la diriger autrement.
Oui, parce que ce sont des romans que vous citez où il y a énormément d'intensité. C'est-à-dire, c'est des baumes, mais c'est pas des baumes qui sont que du calme, Penda Diouf.
Oui, c'est sûr, mais c'est la catharsis.
Ouais, c'est ça. C'est une intensité qui répond à une autre.
Exactement.
Qui peut-être la dirige, en effet, comme vous dites autrement. Vous dites que vous écriviez à ce moment-là, ça trouvait quelle place dans votre vie? C'est-à-dire, je sais pas, est-ce que les gens le savaient? Est-ce que c'est quelque chose que vous disiez? Est-ce que vous le partagiez? Parce qu'on dit souvent que vous avez commencé à écrire très tôt, mais est-ce que le partage était déjà d'actualité?
À la maison, non. À la maison, non. Il y avait beaucoup de pudeur. Il y en a toujours beaucoup. Et c'est pas quelque chose que j'ai partagé quand j'ai commencé. En revanche, je faisais lire à mes copines à l'époque. Et je me souviens aussi d'un professeur qui s'appelait Monsieur Sboy, qui était mon professeur de français au lycée, et qui m'a énormément encouragée. Pas tant. Il n'était pas au courant de mes avancées, on va dire, littéraires de l'époque. Mais en revanche, il voyait ce que je faisais en cours, et il a été très encourageant. Et c'est vrai que j'ai un souvenir de lui assez ému, parce que ça a été le seul professeur non blanc, le seul professeur racisé de ma scolarité, déjà. C'était un prof de français. Et par la suite, j'ai eu l'occasion, par hasard, de rencontrer sa fille. Alors, malheureusement, il est décédé, mais j'ai appris par sa fille qu'il écrivait des pièces de théâtre. Donc je me demande ce qu'il m'a transmis aussi à cette époque-là. J'avais 16 ans et je pense qu'il a été bien au-delà de sa mission de pédagogue, je pense, en m'encourageant.
C'est beau. On saute quelques années, on vous retrouve travaillant dans une bibliothèque, des bibliothèques Penda Diouf. Vous avez été aussi à cet endroit-là. Ça vous a apporté quoi ? Ça a tissé quoi comme peut-être rapport nouveau avec les livres ?
Oh. Ça a tissé un rapport peut-être moins direct du livre, du récit, de la narration à mon âme, mais c'était comment, par peut-être mon expérience, par mes envies, par je pouvais donner envie à d'autres, comment je pouvais transmettre, comment je pouvais être passeuse d'une certaine façon. Et ça, j'ai beaucoup aimé également. Ça a été des années passionnantes pour moi, dans une ville à Saint-Denis qui était absolument incroyable aussi, avec des collègues incroyables, et puis voilà, dans des quartiers qui sont pas toujours évidents. J'ai commencé à Villetaneuse et ensuite j'étais directrice d'une médiathèque sur le quartier du Franc-Moisin à Saint-Denis. Et bon, j'ai des souvenirs des fois de gamins qui me caillassaient lorsque je rentrais à la maison. Voilà, donc des choses assez assez dures, mais en même temps, ils étaient là. Ils étaient à la médiathèque.
Ils étaient là. Ah oui, ils venaient. Ouais.
Ils venaient à la médiathèque et ça a été un énorme cadeau que de travailler à cet endroit-là avec cette équipe-là et aussi de m'en rendre compte que les histoires qui étaient présentes à la médiathèque, en tout cas, on essayait de faire en sorte qu'elles touchent tout le monde et qu'elles trouvent leur public.
Ouais, aujourd'hui, ça fait partie des engagements que vous portez au-delà de votre activité artistique, Penda Diouf. L'idée de partager ce goût de la lecture, de partager le goût de la lecture à voix haute, de partager le goût des textes théâtraux, il y a vraiment, tout ce qu'on appelle la lecture publique et la manière dont les textes peuvent aller vers le plus grand nombre, quel que soit l'âge des lecteurs et des lectrices. Parce que vous croyez quoi ? Qu'est-ce que vous croyez fort dans la possibilité de partage ou de rencontre entre des textes et des gens qui soient plus ou moins jeunes d'ailleurs ?
Je pense que ça peut vraiment changer des vies. Je pense que j'aurais eu une toute autre trajectoire si ma mère ne m'avait pas inscrite à la médiathèque lorsque j'avais 6 ans. Donc oui, je pense que la littérature, vraiment de façon très humble, peut changer des vies, peut ouvrir des mondes, peut ouvrir des univers, peut aider à penser ou à soigner ce qui a besoin de l'être. Et pour moi, c'est primordial, et d'autant plus dans une société, comme on le sait, qui est très, très divisée, où tout est assez difficile. Et je pense que la littérature, l'art plus globalement, mais la littérature, le rapport à l'écrit, aux mots d'autres qui nous parlent, qui font écho en nous, ça n'a pas de prix, quoi.
Je vais insister là-dessus parce que ça nous tient aussi évidemment à cœur. On dit ça souvent, on entend cette formule de la littérature où les livres, ça peut changer des vies. Ça pourrait paraître être une formule comme ça, toute faite et hyper prête à penser et super pratique et belle à dire et puis basta. Mais si on vous demande de préciser, Penda Diouf, pourquoi est-ce qu'un livre, ça peut vraiment changer une vie ou changer une existence ? Pourquoi c'est vrai ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi c'est pas que un slogan politique ? Jamais très bien doté d'ailleurs.
Si je prends mon exemple, ça a permis de soigner une colère pour moi. Et que peut-être qu'aujourd'hui, avec cette colère telle qu'elle me consumait de l'intérieur, je n'aurais pas réussi à faire mes études comme je les ai faites. Je n'aurais pas été au bout de mon cursus universitaire. J'aurais peut-être pas osé non plus. Je me serais peut-être pas sentie légitime non plus à pousser les portes des théâtres, à écrire, à envoyer mes premiers textes. Donc pour moi, l'écriture a été un vrai soutien, un vrai appui, un vrai support à cet endroit-là.
Eh ben, on va en parler de votre écriture à vous, juste après cette chanson de Cecile McLaurin Salvent, chanteuse franco-américaine. C'est une chanson qui s'appelle Ghost Song. Il y est question d'un amour perdu et du fantôme avec lequel elle va danser pendant longtemps. Ça nous a fait penser à tous ces compagnonnages invisibles que vous évoquez dans vos pièces.
I like to keep our love going long, but no matter how much I like, the truth was too strong. I cried when you decided to go. I cried much more than you'll ever know. My pride is my only company. My pride will get the best of me. I'll dance with the ghost of our love. I will dance with the ghost of our long lost love. I'll carry the ghost of our love.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Lorsqu'on veut représenter des constellations, on relie les étoiles par des traits. Ça dessine une forme, cette forme donne son nom à la constellation et nous permet de la trouver dans l'immensité du ciel. C'est ce que font plusieurs de vos textes pour le théâtre Penda Diouf. Relier des points, des êtres, des histoires, trouver les noms, les dire et lever le cœur vers le ciel ou baisser les yeux vers les abîmes, les abysses marines. Même quand vos textes documentent une réalité historique, des enjeux politiques et sociaux précis, ils abritent toujours un au-delà imaginaire vaste. Voilà plusieurs années que vous écrivez pour le théâtre, accueilli par différentes maisons, en résidence un peu partout dans le monde. Vos textes sont publiés et on peut aussi désormais les découvrir en les lisant. Différentes actus que j'ai citées, je ne vais pas me relancer dans la liste au début de l'émission, nous ont donné envie de traverser avec vous ces différents textes pour faire votre portrait en tant que dramaturge. Et souvent, vous vous évertuez, je le dis, à relier les choses entre elles. Penda Diouf, à faire un travail de suture, de couture. C'est vraiment une sorte de... C'est plus qu'une métaphore, c'est vraiment un geste dans votre écriture de trouver des lignes. Alors si on essayait ensemble de trouver des grandes lignes pour présenter votre travail à nos auditeurs et auditrices, des grands motifs, des traversées thématiques dans votre écriture pour le théâtre de ces dernières années, Penda Diouf, on dirait quoi ?
C'est une vaste question.
Est-ce que c'est une question qui vous intéresse d'ailleurs, de repérer des motifs petit à petit dans ce qui s'écrit d'année en année, de texte en texte ?
Maintenant, oui. Au départ, non. Je pense que peut-être j'avais pas suffisamment de texte ni de recul sur moi-même et sur mon geste artistique pour pouvoir y répondre. Aujourd'hui, oui, ça m'intéresse davantage parce que je me rends compte que chaque œuvre que j'écris s'inscrit dans quelque chose de plus grand et que finalement, on écrit... D'une certaine façon, un peu toujours la même chose. On tourne toujours, on creuse toujours le même sillon et il est important de définir à un moment ce qu'est ce sillon et pourquoi il nous parle autant, pourquoi il nous appelle, pourquoi il nous happe. Et c'est sûr que la question de... Moi, j'ai un rapport à l'histoire, je pense, qui est assez fort. Peut-être parce que il y a plein d'histoires que j'aurais aimé entendre plus petite et que je n'ai pas entendues.
Vous pensez à quoi quand vous dites ça ?
Je sais pas, l'histoire plus globale de la colonisation, de l'Afrique subsaharienne, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, les deux pays dont je suis originaire.
Vous auriez aimé les entendre à quelle échelle ? À l'échelle intime, à l'échelle de l'école, à l'échelle médiatique ?
Les deux, à l'échelle de l'école, je pense que ça m'a manqué. Il y avait une sorte de béance à cet endroit-là. Et à l'échelle intime, familiale... Oui, parce qu'on sait très bien que, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de pudeur aussi dans les familles. Et puis qu'une fois qu'on a traversé l'océan, il y a des choses qu'on a laissées sur l'autre rive et des récits qui ne nous parviennent pas. Et peut-être que c'est aussi pour ça que j'écris, peut-être pour les reconstituer d'une certaine façon.
Donc il y a ça, en effet, qui est très présent dans ce que vous écrivez, un rapport à l'histoire et quelle que soit d'ailleurs la dimension de cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a parfois, je sais pas, dans un texte comme Sœur, ça peut être tout à fait l'histoire d'une famille et la manière dont un lien se crée entre deux filles, mais qui en abrite éventuellement une troisième, et puis ce lien qui est aussi celui de la mère, et peut-être la mère avec sa mère, etc., etc. Donc ça peut être cette échelle-là. Mais on entend aussi l'histoire, par exemple, d'un génocide perpétré en 1907 en Namibie et la manière dont ça a été matriciel pour la colonisation française en Algérie et pendant la Shoah. Enfin bref, il y a une façon comme ça de regarder la grande histoire aussi qui est assez présente. Ça veut dire que la documentation est importante dans le travail que vous faites ?
Oui, vraiment. C'est un travail qui n'est pas tant documentaire que documenté. Je passe beaucoup de temps justement dans les bibliothèques à aller chercher des informations pour être la plus juste possible, en essayant d'être éthique aussi dans mon travail. Aussi éventuellement de faire des entretiens, des interviews avec des personnes qui sont concernées pour être au plus juste. Et seulement après, lorsque je considère avoir suffisamment de matériaux, je commence à écrire avec une ou deux idées. Et ensuite, je laisse mon esprit vagabonder pour voir jusqu'où ça va. Je tire le fil et je vois où ça m'amène. Et j'aime bien me laisser surprendre aussi par les textes que je peux écrire. Et il y a aussi un rapport, peut-être un rapport au vivant. un rapport à l'invisible qui est assez important aussi dans mes textes. C'est vrai que je viens aussi d'une... Ma mère est donc d'origine ivoirienne, elle est baoulée. Et il y a aussi ce qu'on peut appeler de façon un peu rapide de l'animisme, mais en tout cas des relations traditionnelles, des religions traditionnelles qui donnent à entendre qu'un rocher peut avoir un esprit, peut avoir une âme, une rivière peut avoir une âme, un arbre peut avoir une âme, et qu'il faut être à l'écoute en fait de notre environnement. Et c'est ce que j'essaye d'une certaine façon de renouer aussi à travers mes textes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la question juridique, les rivières aussi ont des droits. Donc si elles ont des droits, on peut imaginer qu'elles ont un autre type d'existence aussi. Et moi, je trouve ça passionnant.
Absolument, on y reviendra tout à l'heure, notamment à partir de votre texte « Sœurs, nos forêts aussi ont des épines ». Mais on va parler du théâtre et de ce choix que vous avez fait. Vous n'écrivez pas n'importe où. Pour l'instant, c'est votre lieu, Penda Diouf. Mais il y a un roman en préparation. Ça ne veut pas dire que votre écriture, elle sera cantonnée à ça. N'empêche que c'est quand même l'endroit que vous avez choisi. On va y entrer grâce au prologue de Piste. Un petit bout de la captation pour évoquer la manière dont vous vous adressez.
Te souviens-tu des dieux? Te souviens-tu des dunes de Namibie? Te souviens-tu des dunes de Namibie et du roulé du sable sur leurs flancs? De la mélodie de leurs flancs? De l'aine des dunes de Namibie, d'où s'écoulent des grains de sable égrenés un à un, roulant sur eux-mêmes? Précipité dans la chute de reins vertigineuse de la dune, il brûle d'impatience de rouler sur le sol, loin de leur point d'origine. Un endroit d'où ils ne verraient plus, d'où ils ne verraient rien, car leurs yeux ont tout vu et leur rétine a brûlé. Ils chantent leur complaint dans un ruissellement tantôt féerique, tantôt maléfique, d'une mugissante. C'est la complainte du grain de sable rôti au soleil dans le désert du Namib qui roule, qui tombe, qui chute.
C'est le prologue de votre texte « Piste » et la voix de Nanyadji Kagara, « Piste » qui a été créée dans votre mise en scène au Théâtre du Nord à Lille et qui tourne, Penda Diouf, pour faire entendre ce « Te souviens-tu », cette adresse-là, cette femme qui parle, dans un premier temps, on ne sait pas à qui, mais peut-être d'abord à nous. Est-ce que dans le théâtre et tout ce que vous écrivez aussi dans les formes dialoguées, c'est ça que vous cherchez, Penda Diouf, l'adresse, la manière de parler à?
Oui, exactement. Je crois que c'est Alizée Niter qui dit qu'elle elle a commencé à écrire du théâtre parce qu'elle en avait marre, entre guillemets, de la solitude du roman. Et je crois qu'il y a de ça dans l'écriture théâtrale. Il y a l'idée de commun, il y a l'idée de communauté, il y a l'idée de dialogue avec un autre, une autre qu'on ne connaît pas forcément. Et il y a l'idée de travail collaboratif aussi. Et moi, c'est vraiment des choses qui me parle et qui me touche assez profondément. Je crois qu'il y a deux endroits au monde où j'aime être vraiment passionnément. C'est les bibliothèques, mais c'est aussi les salles de spectacle.
Parce qu'il y a ça, parce que c'est être ensemble, une salle de théâtre, une salle de spectacle, c'est être ensemble pour vivre quelque chose ensemble pendant un temps donné.
Oui, et partager la même chose, alors pas forcément la même émotion, mais en tout cas, partager la même œuvre. Et ensuite... que cette œuvre, selon la façon dont elle nous a remués, de repartir transformée, de repartir changée, et peut-être aussi d'avoir un rapport au monde qui, on le souhaite tous, soit autre, un petit peu modifié. Et pour ça, je trouve que c'est un outil très puissant.
Oui, il y a beaucoup de choses d'ailleurs, au-delà même du geste théâtral, mais même dans les motifs. J'ai parlé du lien sororal, mais il y a l'idée du réseau, beaucoup, de la constellation, des rhizomes, enfin vraiment des choses qui sont reliées les unes entre les autres, Penda Diouf. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à la petite fille que vous écrivez, au personnage de petite fille que vous écrivez dans Piste, qui de scène en scène est toujours plus seule, toujours plus exclue, toujours plus ostracisée, notamment pour des questions de racisme. Et c'est comme s'il y avait une sorte de réponse à ce vécu-là par « je vais créer du lien, je vais faire du fil, je vais recoudre ». Enfin, il y a vraiment beaucoup comme un geste inverse, d'une certaine manière.
Oui, effectivement. Il y a du processus de réparation pour moi également lorsque j'écris. Et effectivement, c'est donner une communauté, en fait, à cet enfant qui a été seul à un moment donné, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Lui donner une famille élargie, c'est l'ancrer aussi dans un espace défini,
dans une histoire.
Dans une histoire, la sienne et puis celle plus globale du monde. Et pour moi, c'est extrêmement important. J'ai l'impression que via la littérature, via l'écriture, via le théâtre, on peut modifier la réalité. On peut retravailler la réalité, on peut... Ouais, il y a quelque chose presque de magique dans ce processus, je trouve, de soins, en fait, apportés et aux personnages et à la façon dont on les intègre dans leur fiction. Et il y a une phrase d'Edouard Glissant que j'aime beaucoup qui dit « On ne transformera pas le monde si on ne transforme pas les imaginaires ».
Oui, bah vous vous en privez pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que, y compris quand vous travaillez des chantiers historiques précis ou des réalités sociologiques précises, et c'est ce que je disais, ça jouxte souvent quelque chose de céleste, de scintillant, de assez proche du songe. Il y a quelque chose comme ça. On sent que la magie, la métamorphose, tout ça, ce sont des endroits où vous allez allègrement, Penda Diouf,
oui.
Comme si c'était une ressource.
Oui, il y a quelque chose aussi de... Ben, je trouve que là, peut-être que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de se projeter, c'est de faire confiance à son imaginaire, et c'est d'oser la transformation, d'une certaine façon. Comme si aujourd'hui, il était beaucoup plus difficile, et on le sait, hein, en termes de sociologie, voilà, l'ascenseur social, il est en panne, etc. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent. Mais malgré tout, j'ai l'impression que via l'imaginaire et via la confiance qu'on peut se porter et via la communauté aussi qui peut nous accompagner, nous soutenir, il est encore possible de s'infiltrer dans quelques brèches. Voilà.
D'ailleurs, vous mettez en scène dans Sœurs, nos forêts aussi ont des épines, une autre pièce, une promenade en forêt, et elle cueille dans un premier temps des champignons avant même peut-être d'en consommer. Il y a vraiment quelque chose de la transformation, de la métamorphose. Peut-être elles vont, comme Alice d'ailleurs au Pays des Merveilles, peut-être elles vont se changer, elles vont pouvoir avoir accès à d'autres espaces d'elles-mêmes, de leur mémoire, de leur histoire, jusqu'à rejoindre des cavernes. Ça nous a fait penser à deux figures de chercheuses qui travaillent ça, ces questions de transformation et du vivant. Anna Sin qui travaille beaucoup le champignon, enfin, qu'il y a toute une théorie à partir du champignon, mais aussi à Donna Haraway. On l'écoute ici dans une archive d'Arte en 2021.
Nous sommes toujours, nous et tout ce qui vit et meurt, dans un devenir ensemble. Nous sommes dans une histoire située, dans des histoires situées. Nous ne sommes pas tous pareils. Ainsi, je n'ai pas connaissance d'un seul être humain actuel, passé ou à venir, qui ne soit pas situé au milieu d'autres êtres qui vivent et meurent, ainsi qu'au milieu de cette partie du monde que nous considérons comme non vivante, comme les pierres, les eaux et les vents, ainsi qu'au milieu du monde construit, les objets nécessaires pour manger, pour voyager, pour enquêter, pour partager. Nous vivons tous dans un monde qui est composé.
Ce sont les nuages qui se débarrassent du surplus, et ça désaltère le monde du dessus et du dessous. Ça rend les racines souples et agiles,
prête à creuser encore plus profond, comme les rongeurs qui tracent des galeries souterraines jusqu'à trouver les nappes phréatiques. La mémoire du dessous. Et là, les racines. Elles s'arrêtent parce qu'il y a quelque chose d'important pour leur survie. Elles plongent dans le bain. Et les tiennes de racines, elles vont voyager, peut-être rencontrer d'autres racines de l'autre côté de l'océan, s'y agripper fort et créer une autre souche. Tu vas nous manquer. Imagine tout ce réseau invisible sous nos pieds, ça vibre, ça émet des signaux chimiques, ça communique entre différentes espèces, ça grouille de mille et une informations. Sous nos pieds, des révolutions se font tous les jours. La nature comprend ce qui se trame, mais pas nous. Et ce serait nous, l'espèce la plus évoluée ? À défaut de comprendre, on a reproduit en créant Internet. Mais c'est froid, Internet. C'est que de l'algorithme, alors que la nature est tellement plus complexe. Quand on marche au milieu des arbres, on peut sentir le pouls de la forêt et juger de son état de santé. Imagine qu'avec tes pieds, tu masses l'écorce de la planète. Les champignons sont comme les neurones de la forêt. Ils décomposent les matières organiques comme les arbres morts et entreprennent un nouveau cycle de vie en libérant des nutriments qui permettent de nourrir tout l'écosystème de la forêt et participent à sa régénération. Ils aident aussi les arbres. Ils échangent des informations et les préviennent d'un danger, comme des attaques d'insectes et de la sécheresse du sol. Juste après la voix de la chercheuse Donna Haraway, j'ai lu un extrait de votre texte « Sœurs, nos forêts aussi ont des épines », Penda Diouf, qui vient juste de paraître aux Solitaires intempestifs. Et c'est ce texte qui va être mis en scène par Sylvia Costa à la MC 93 de Bobigny du 5 au 15 février. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans cette activité rhizomique, souterraine, mais aussi dans l'activité céleste, ou alors un petit peu plus tard dans le texte, dans tout ce qui se passe dans les fonds marins? Pourquoi est-ce que ça vient tant de fois en écho avec d'autres sujets peut-être plus terriens, ou pragmatiques, ou intellectuels?
Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très mystérieux à tout ça. On n'en connaît pas la moitié, et pourtant ça fonctionne. Et j'ai l'impression qu'on pourrait s'inspirer davantage de ce que la nature met en place, et que nous, humains, avons peut-être oublié. Et parfois, nous n'avons peut-être pas non plus l'humilité d'attendre, d'écouter, de voir, de regarder ce qui se trame à côté de nous. Et je me dis que si on était peut-être un peu plus attentif, attentive, justement à ces minuscules choses qui se déroulent sous nos pieds, dans le ciel, à côté de nous, peut-être qu'on aurait un autre rapport à notre environnement, un autre rapport aux autres, une autre relation à l'autre, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la question de la relation, en fait, et comment relationner, comment aider, comment accompagner, comment donner de la force. c'est des choses qui me parlent beaucoup, qui m'intéressent. Et puis la question de la fluidité aussi. Les choses, en fait, elles ne sont pas aussi figées que ce qu'on imagine, et qu'elles bougent et qu'elles se transforment, et que nous-mêmes, on pourrait éventuellement être amenés à se transformer. On l'a déjà fait, hein, dans l'histoire de l'évolution. Mais comment je suis quelqu'un à un moment T, mais le lendemain, quelques jours plus tard, après une pièce de théâtre, je serai autre. Ça, c'est des choses qui me parle.
Ouais, jusqu'à les regarder parfois presque avec un microscope dans votre écriture, Penda Diouf, c'est-à-dire que c'est quasiment un endroit plus scientifique de l'exploration qui reste poétique dans Sœurs, par exemple, à un moment donné. Ces deux jeunes femmes qui se promènent donc dans la forêt, qui font une cueillette de champignons, qui évoquent le départ de lune, qui évoquent leur rapport avec leur mère. À un moment donné, se trouvent comme dans une sorte de caverne qui pourrait les propulser dans un avant de leur naissance ou dans un temps très ancien, là où ne compte presque plus que l'échelle cellulaire d'une certaine manière, Penda Diouf. Et c'est là qu'elle découvre qu'il y a une troisième sœur, une sœur fantôme, une sœur qui a été la jumelle et qui n'a pas vécu. Là, c'est comme si, oui, vous zoomiez au plus près de ce qui nous compose, c'est-à-dire les cellules au moment embryonnaire. Ouais. Il y a quelque chose de très 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 microscopique, quoi. C'est toujours un aller-retour entre le grand, ouais, ce que j'ai appelé le grand tout, là, parce que je sais pas trop comment dire, et puis le tout petit cellulaire atomique.
Oui, j'aime bien ces changements d'échelle, là. C'est comme les temporalités. Très souvent, on est un peu perdu dans mes textes, dans les temporalités. Où est-ce qu'on est? À quel moment? Est-ce qu'elles sont enfants? Est-ce qu'elles sont justement dans le ventre? Cette caverne, c'est effectivement le ventre de la mère aussi. Donc, à quel endroit on se situe? C'est des choses que j'aime bien travailler et aborder dans mes textes. Et je pense que j'aurais adoré faire des études scientifiques. Et du coup, ces commandes d'écriture, ces textes que j'écris là actuellement me permettent de me plonger dans un univers que je trouve absolument fascinant et dont peut-être, en tout cas au théâtre, on ne s'empare pas assez. Voilà. Et c'est des choses qui me passionnent, tous les travaux de Baptiste Morisot, de Vinciane Després, les éthologues. Je trouve leurs travaux absolument fascinants et vraiment ça me parle beaucoup.
Alors, on rencontre plein de choses, parce qu'on rencontre aussi des sprinteurs, des grands athlètes dans vos textes. On va écouter un petit revival des années 90. On est sur Canal+, et c'est la finale du 200 mètres en 96.
Voilà, bon départ, très bon départ de Johnson et bon départ de Fredericks aussi. Bolden est quasiment avalé par Fredericks. Johnson, Fredericks, Bolden, ils sont quand même tous les trois nettement devant. C'est bien une finale à trois, mais Michael Johnson s'en va. Il n'y a rien à faire. Fredericks va battre Bolden, mais Johnson va être très loin devant.
Marc, redis-nous ce podium. Michael Johnson, 19 secondes, 32 centièmes, record du monde. Deuxième, Franky Fredericks, 19 secondes, 68 centièmes. Nouveau record d'Afrique et nouveau record personnel, bien sûr. Atto Bolden est troisième et médaille de bronze en 19,80. Lui aussi bat son record personnel. Et derrière le quatrième, c'est Obadeli Thompson qui réalise 20,14.
C'est des bonnes Madeleine de Proust, les commentaires sportifs généralement. Enfin, en tout cas, moi, ça marche vraiment très très bien. Penda Diouf, 1996, Atlanta, la finale du 200 mètres, ça vous propulse où? Et pourquoi est-ce que pour vous aussi, c'est un point de départ?
96, j'ai 15 ans, j'habite à Antibes et je fais de l'athlétisme. Voilà où ça me propulse.
Déjà, c'est pas mal, c'est un bon paysage.
Voilà où ça me propulse à, voilà, Antibes, à côté du Fort Carré, à m'entraîner les mercredis et les samedis matins. Ça me propulse aussi, oui, je pense à Franky Fredericks, puisque c'est aussi, il est devenu un des personnages d'une de mes pièces qui s'appelle Piste. Pourquoi Franky? Parce que je pense que j'étais amoureuse de lui lorsque j'avais 15 ans.
Allez là, on dit les choses.
Je pense que voilà, j'avais énormément d'affection pour lui et aussi je trouvais que c'était quelqu'un qui me paraissait, en tout cas sur les dans les stades, qui me paraissait extrêmement digne, très humble et qui n'était pas du tout dans le show-off comme les athlètes américains. Et pour moi, ça m'a intriguée. Je me suis dit, mais qui est cet homme qui a l'air tout timide comme ça? Et finalement, figure dans laquelle moi-même, je pouvais me projeter parce que je me sentais moi aussi toute timide et pas forcément à ma place. Et j'ai commencé à regarder davantage. Et la Namibie, je connais pas ce pays, il est d'origine namibienne. Où c'est? Et petit à petit, je me suis renseignée sur le pays et j'ai eu envie très fort d'y aller. Rêve que j'ai réalisé puisque j'y suis allée par deux fois. Et pour moi, ça a été une vraie rencontre, ce pays, parce que c'est le deuxième pays le moins peuplé du monde, après la Mongolie. Et c'est un pays qui est composé à 90% de désert.
D'où la présence des dunes.
D'où la présence des dunes, effectivement. Et c'est aussi un pays qui a vécu un génocide pendant la colonisation allemande entre 1875 et 1915. Et il s'avère qu'il y a une sorte de filiation moribonde, en fait, entre ce qui s'est passé en Namibie au début du siècle et ce qui s'est passé en Europe pendant la Shoah.
Notamment par ce que vous expliquez d'une expérimentation de la forme des camps au tout début du XXe siècle, expérimentation qui va être évidemment transformée, mais trouver une sorte de matrice pour ce qui se passera au milieu du XXe siècle pendant la Shoah. C'est pas le seul motif que vous travaillez comme étant une sorte de la Namibie comme un point matriciel aussi pour parler de ce qui sera détruit en Algérie par la colonisation française, des structures traditionnelles, des pratiques agricoles, des rapports à l'identité, au papier, des manières de détruire aussi certaines histoires. Et vous suivez ces pistes-là, Penda Diouf, dans un texte qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Piste. Ce qui m'amène aussi à réfléchir à tout le mouvement dont vous parlez souvent dans vos textes, c'est-à-dire que Franck Frédéric, ça court, dans Danseur, ça marche, il y a quelque chose en mouvement, ou même quand il s'agit de coudre, vous allez très près du geste. Oui, vous parliez de la transformation, mais il y a aussi le déplacement, d'une certaine manière, dans votre écriture.
Ouais, déplacement qui, je pense, vient à la fois de l'exil parental, de l'exil des parents. Ma mère s'est déplacée plusieurs fois, de la Côte d'Ivoire au Sénégal, et ensuite du Sénégal à la France. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils sont retraités, mes parents sont retournés vivre au Sénégal. Donc voilà, déplacement constant. Moi aussi, lorsque j'étais plus jeune, j'ai beaucoup déménagé étant petite. Donc je pense que je porte aussi en moi cette forme de mouvement. Et puis, lorsqu'on parle aussi d'histoire... on parle beaucoup de théorie, on parle de loi, mais on ne parle pas forcément du décor. Et pour moi, c'était aussi important de donner à voir, en tout cas dans Piste, de donner à voir et à entendre les corps, que les corps puissent parler, que les corps, ça soit les corps athlètes, que ce soit les corps noirs qui sont abîmés, qui sont détruits, que ce soit les corps des Namibiens qui ont été génocidés. Pour moi, c'était important que ça ne reste pas juste quelque chose de théorique, mais que le corps empêché et parfois souffrant puisse aussi s'exprimer et s'exprimer par plein de façons différentes. Mais le mouvement, oui, c'est quelque chose qui... J'aime pas les choses figées.
On l'a entendu. D'autant plus que vous insistez, Penda Diouf, sur la pratique génocidaire qui veut non seulement tuer, mais effacer les traces, la moindre trace, réduire le corps plus qu'en cendres, mais aussi effacer les noms, effacer les histoires. Et il y a comme une sorte aussi de réponse de votre écriture avec cette angoisse ou ce fait-là du blanc, du trou, de l'effacement qui vient, je reprends encore cette métaphore de la couture, de la suture, parce que vous l'utilisez beaucoup. On va terminer en écoutant la voix de Grégoire, auditeur du Book Club. Il a lu Piste, mais surtout, il vous interroge sur le travail de mise en scène.
Bonjour le Book Club, bonjour Penda Diouf. J'ai envie de vous parler de votre pièce Piste. Il y a une scène en particulier qui m'a bouleversée, c'est celle de la fête de l'école. Le texte nous fait directement ressentir à la fois le grand enthousiasme d'un enfant plein de vie, plein de spontanéité, ce désir qu'on est beaucoup à avoir connu, je crois, de pouvoir faire comme tout le monde. Et l'extrême violence de la réponse raciste qui est faite. L'idée que non seulement dès le plus jeune âge, le personnage ne peut pas prétendre à être comme tout le monde, à faire comme tout le monde, mais aussi qu'on l'assigne à une différence qui ne correspond même pas, il me semble, à son propre ressenti, à sa propre vie. Je crois que c'est la première fois que vous mettiez en scène un de vos textes. Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que votre rapport à ce texte a changé? Je vous remercie pour votre réponse et pour vos textes.
Bah, c'est nous qui vous remercions, Grégoire, pour cette lecture si fine et cette question, Penda Diouf. Le fait de mettre en scène son propre texte, est-ce que ça bouge quelque chose? Et moi, je rajouterais même de pouvoir être spectatrice de la mise en scène d'autrui. Est-ce que ça bouge les choses aussi?
Ouais, ça a bougé beaucoup de choses. Déjà, j'étais extrêmement émue et touchée et honorée d'être accompagnée par une si belle équipe. Ça a été vraiment, tout le process a été incroyable et le spectacle en lui-même, j'ai découvert des choses sur mon propre texte. En voyant Nanyadji au plateau, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai écrit ce texte.
Ça veut dire quoi, c'est pour ça?
Il y a un moment dans le spectacle où Nanyaji, donc la comédienne, rend hommage en fait au capitaine Nama qui s'appelle Hendrik Witbooi. Et Hendrik Witbooi, il a été enterré pendant cette période de la colonisation, mais sans qu'on sache vraiment où il était enterré parce qu'on avait peur des profanations. Et sur scène, en fait, elle lui rend hommage. Et c'est comme s'il y avait un rituel qui se faisait de deuil et d'inhumation de son corps. Et je me suis dit qu'en fait, je voulais qu'inconsciemment, ce rituel se faisait en public pour lui rendre hommage, en fait, parce que ça n'avait pas pu être le cas à l'époque. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais du coup...
Les choses que vous avez pu voir sur scène, ouais. Geste de sépulture après coup, d'une certaine manière, que vous n'aviez même pas pu conscientiser en écrivant qui la scène, la même chose.
Mais ouais, qui étaient vraiment inconscientes en écrivant, mais qui ont vraiment pris tout leur sens au plateau, et ça, je...
Parce qu'il y avait des corps d'un coup, et qu'il y avait des gestes, et qu'il y avait des...
Bah, c'est un arbre, le corps, c'est un arbre. Mais ça m'a vraiment bouleversé cet endroit-là et puis de cadeaux en fait que l'équipe me faisait de me faire redécouvrir et retraverser mon texte. Et pourtant je le connais bien et ça m'a énormément touchée. Le rapport à la réparation aussi que j'ai pu travailler de façon beaucoup plus fine dans le spectacle que je ne l'ai fait dans le texte également. En tout cas, j'ai prolongé le geste. Et ça m'a fait du bien aussi. J'étais contente d'arriver à cet endroit-là. Et peut-être la différence, c'est lorsqu'on lit un livre, on en parle à l'auteur ou à l'autrice, parfois jamais et parfois après la lecture, mais là, c'est instantané.
Le partage.
Le partage, le ressenti, tout était instantané, et moi-même étant dans la salle, en fait, je vivais en même temps que le public et les spectateurs l'émotion du spectacle, et c'était très 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 émouvant.
Allez au théâtre.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Aller au théâtre, aller dans la forêt, acheter des livres, emprunter des livres à la bibliothèque et écouter la radio. Comme tous les jeudis, on prend des nouvelles du livre grâce à la rédaction internationale de Radio France à cette heure-ci dans le Book Club. Et aujourd'hui, on se rend en Suisse avec vous, Jérémy Lange. Bonjour Jérémy.
Bonjour Marie.
Vous avez choisi de nous parler d'un premier roman remarqué où il est question de sang, de larmes et de sueur. Il s'agit d'Au cœur de la bête de Laurin Voisard, paru aux éditions d'En Bas. C'est un jeune auteur diplômé en lettres qui a travaillé 6 mois dans un abattoir en Suisse romande. Et c'est de cette expérience qu'il a tiré un récit puissant à la frontière entre le roman et le documentaire.
Ouais, difficile en effet de classer ce livre. Hein. Laurin Voisard lui-même est assez discret sur la part du vécu et la part de l'imaginaire. Mais tout semble tellement vrai qu'on a tendance à oublier qu'on a un roman entre les mains. Le personnage principal s'appelle Arthur. C'est un lettré donc qui choisit de devenir petite main dans un abattoir perdu dans la campagne suisse. Un peu sur le modèle des prêtres ouvriers. Alors pour partager la vie de ceux qui travaillent, malgré eux parfois, dans cette industrie pas comme les autres. Et il le fait sans aucun jugement, mais avec lucidité. Lucidité face au sort des bête sacrifiée dans des conditions difficilement soutenables, et puis lucidité aussi face à la machinerie qui broie autant les animaux que les humains qui l'actionnent.
Vous le dites, on ne sort pas indemne d'une lecture comme celle-ci, et c'est aussi dû à l'écriture de Laurin Voisard.
Ouais, on est dans un abattoir, alors pourquoi utiliser des mots fleuris pour décrire les fluides corporels qui tapissent véritablement les lieux? Alors pardon pour les oreilles chastes, la soupe à la merde, la chiasse, les étrons, la pisse, les trachées qu'on découpe, le cœur qu'on vide de son sang, les lambeaux de peau sur les murs, les seaux remplis d'yeux de porc, voilà, je vous avais prévenu. Le langage est cru, froid, comme les couloirs d'acier où sont poussés les bovins qui vont se faire abattre. On retient cette phrase d'un des personnages qui dit « Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais jamais tué. La mort, elle est partout, jusque dans les cauchemars des employés qui bien souvent sont hantés par le souvenir d'une vache ou d'une brebis dont l'expression est restée gravée dans leur mémoire des années après sa mise à mort. »
C'est un roman qui a gagné le prix du public de la radio-télévision suisse. Ça lui a valu une dotation de 10 000 francs suisses. C'est pas la première fois pourtant qu'un auteur ou qu'une autrice raconte ce qu'il a vécu ou vu dans un abattoir, Jérémy.
Non, on pense bien sûr à Upton Sinclair en 1906, déjà dans la jungle, sauf que là où l'Américain voulait dénoncer les conditions de travail des employés des abattoirs, Laurent Voisard veut juste parler d'eux. Ce n'est pas un militant antispéciste chez les viandards, hein, pour faire simple, non. C'est juste un témoin de la brutalité de l'industrie de la viande. Il m'a confirmé d'ailleurs qu'il en mange toujours, mais ce qui ne l'empêche pas, à travers son personnage, de se poser des questions. Comme il y a des cours d'éducation sexuelle ou de sensibilisation à la sécurité routière, pourquoi pas des cours sur la barbaque, s'interroge-t-il. Imaginez s'il fallait passer par l'abattoir pour obtenir un permis pour manger de la viande, dit le narrateur, et laisser entendre que tout le monde ne l'obtiendrait pas.
Je rappelle le titre de ce livre dont vous nous parliez aujourd'hui, Au cœur de la bête, de Laurent Voisard. C'est aux éditions d'En Bas. Merci beaucoup Jérémy, et toutes les lectures sans frontières à réécouter sur la page du Book Club. Dans votre travail, Penda Diouf, au plateau, comme on dit, quand vos textes sont mis en scène, il y a une part importante qui est soignée autour du son. Vous commandez des créations sonores, de la musique. On entendait aussi tout à l'heure carrément un chant de la comédienne qui reproduisait le chant des dunes. Et ici, dans le Book Club, on confie à nos auditeurs et auditrices la tâche de chercher de la musique dans les textes. Ça s'appelle le grand jeu des pages musicales. On peut nous envoyer des extraits via une adresse mail lebookclub@radiofrance.com ou directement via le compte Instagram du Book Club. Aujourd'hui, l'auditeur qui joue avec nous s'appelle Jacques. Il a choisi un extrait d'un livre qui s'appelle Le contrat de Salinger d'Adam Langer. C'est paru en 2015 pour l'édition française chez Super 8 Éditions dans une traduction d'Émilie Didier. On se quitte donc avec un extrait choisi par Jacques. Connor soupira. Il regrettait d'être venu à Chicago. Ce voyage n'avait fait que confirmer ses soupçons et aggraver ses craintes. Tout ce qu'il voulait maintenant, c'était rentrer chez lui. Voir sa femme et son fils. Dormir. Aller de l'avant. Encaisser son chèque, tout oublier et partir loin. Comme Salinger avant lui. Le train marqua l'arrêt sous terre, à la station Washington Street. Connor avait du mal à marcher droit et à suivre Dex et Pavel à travers la gare. Ses tripes étaient nouées. De petites bulles transparentes dansaient devant ses yeux. Parfois, il voyait double. Il suivit les deux hommes tandis qu'il gravissait les marches qui débouchaient sur le Loop, un quartier bien plus sinistre et désolé que le New York de la nuit. Ils longèrent des enseignes de cinéma, éteintes à cette heure-là, des vitrines de grands magasins plongées dans la pénombre, des parkings en plein air déserté, un parc devenu bien plus noir que vert, un chanteur sans âge, qui, devant son étui à guitare ouvert, jouait une chanson de Johnny Mitchell, Coyote. Il marchait dans le halo ambré des lampadaires, puis retournait à l'obscurité, et ainsi jusqu'au lac. La grande roue de Navy Plate clignotait, indifférente.
Regrets, coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're up early on your ranch. You'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending, and I'll just be getting home with my reel-to-reel. There's no comprehending just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips you can get. Still feel so alone and still feel related, like stations in some relay. You're not a hit and run driver, no, no, racing away. You just picked up a hitcher, prisoner of the white lines on the freeway.
Merci beaucoup, Penda Diouf, d'avoir été avec nous pour parler de votre travail. On peut citer cette dernière parution, Sœurs, nos forêts ont aussi des épines. Le livre est à lire aux Solitaires intempestifs. C'est un texte qui sera mis en scène par Sylvia Costa du 5 au 15 février à la MC 93 à Bobigny. On peut aussi citer quelques dates de la tournée de Piste dans votre propre mise en scène. 6 et 7 mars à la scène nationale d'Essonne, à Évry, du 11 au 15 mars du côté de Dijon. On en a parlé tout à l'heure. Et du 19 au 29 mars au Théâtre 13 à Paris.